Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Samuel Bernard, mais aussi Marguerite Caton et Maïlys André, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Kevin Boisseau. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Sémo.
Bonjour.
Aujourd'hui, la CDU, le Parti conservateur allemand, va se pencher sur la succession d'Angela Merkel. En effet, les délégués de l'Union chrétienne démocrate se réunissent en congrès aujourd'hui à Hambourg pour désigner celui ou celle qui en prendra la tête. C'est un moment historique pour le pays qui s'apprête donc à tourner la page Merkel, présidente de son parti depuis 18 ans. Il est donc temps de faire un bilan pour celle que l'opinion surnommait affectueusement Mutti, maman, à l'aube de son quatrième et dernier mandat, et de regarder comment la CDU peut retrouver un nouveau souffle alors qu'elle se trouve débordée par sa droite, par l'AfD, le parti d'extrême droite, mais aussi attaquée par son centre, par les écologistes qui affichent eux aussi une santé presque insolente. Pour évoquer ces questions, deux invités. D'abord Christiane Dawson, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de la maison Heinrich Heine, fondation pour l'Allemagne de la cité universitaire. À vos côtés, Hans Stark, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et également professeur à la Sorbonne. Merci d'être avec nous. D'abord, avant d'évoquer l'Allemagne, place à la Centrafrique, notre partenariat avec l'association des prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Centrafrique. C'est Maria Malagardis, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes journaliste pour Libération, spécialiste de l'Afrique. Alors, la Centrafrique, rappelons-le, c'est toujours le théâtre, malheureusement, de violences régulières, malgré la présence de la mission de l'ONU et malgré les élections présidentielles organisées à l'issue desquelles il y a eu un nouveau président qui a été élu. Le pays n'est pas complètement en réalité sorti de la guerre civile qui a fait, rappelons-le, 3000 morts, 1 million de déplacés. Le mois dernier, par exemple, une cinquantaine de personnes ont été tuées dans des affrontements. Seul l'endroit qui est à peu près sécurisé, c'est Bangui, mais c'est vrai que tout le reste du pays, c'est extrêmement compliqué. Il y a encore beaucoup de violences intercommunautaires, on va en parler. Face à cet état de violence, Maria Malagardis, le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, a appelé la communauté internationale à lever l'embargo sur les armes qui a été mis en place en 2014. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer, de lui parler, il vous a accordé une interview.
Absolument.
Comment est-ce qu'il justifie cette demande de lever d'embargo? Comment est-ce qu'on peut penser que laisser affluer à nouveau des armes sur ce territoire peut permettre de pacifier le pays?
En réalité, les armes, elles sont déjà là. Même à Bangui, tout le monde est armé. Et même si à Bangui règne un calme relatif, il y a toujours un quartier où des affrontements réguliers ont lieu.
Moi, le PK5 en l'occurrence,
le PK5, l'enclave qui est une enclave musulmane. Quand j'y étais, il y a eu quand même 7 ou 8 morts en une semaine. Donc le problème n'est pas tellement d'avoir des armes dans le pays, où le danger n'est pas... Si c'est un danger, on est déjà devant un fait établi. Le problème du président Touadéra, c'est que en raison de l'embargo qui avait été décrété en 2014 au pire moment des violences, il a une armée qui, elle, ne dispose pas d'armes. Une armée qui, depuis son élection, est en pleine réorganisation. L'Union européenne est impliquée dans la formation et depuis plus récemment les Russes.
On va en parler.
Il ne sert à rien de former des bataillons ils ne peuvent pas s'armer et sécuriser les populations.
J'entends parfaitement, mais il faut des armes, évidemment, mais il faut aussi tenir, contrôler cette armée. Est-ce que le pouvoir politique aujourd'hui contrôle cette armée? Ça n'a pas toujours été le cas. On se souvient des révoltes dans les casernes à l'époque de l'ancien président François Bozizé. Est-ce qu'aujourd'hui l'armée est rentrée dans le rang? Est-ce qu'aujourd'hui le pouvoir politique tient son armée?
C'est ce que disent tous les responsables sur place, non seulement le pouvoir en place et le président Touadéra, mais aussi le chef de la mission de l'ONU que j'ai également interviewé et qui lui considère que les forces armées centrafricaines d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier, qu'on leur a inculqué une autre déontologie, que elles sont beaucoup plus professionnelles et mieux formées. Maintenant, évidemment, ça sera l'épreuve du feu, mais en tout état de cause, c'est vrai que cette demande a une part de légitimité. dans le sens où rien ne sert d'avoir une armée qu'on ne peut pas déployer et qu'on ne peut pas armer. Mmh. Et là, les casques bleus de l'ONU ont montré les limites de leur capacité d'intervention. Vous parliez du massacre qui a eu lieu récemment, et c'est même pas une cinquantaine de morts. On est entre 60 et 100 morts, même si personne n'a fait, ne fera de bilan définitif. Mmh. Il y avait des casques bleus qui étaient devant le camp de déplacés quand il a été attaqué. Ils étaient 40. Ils ont vu une foule déferler armés jusqu'aux dents, et ben ils ont songé avant tout à se protéger eux-mêmes.
Oui, donc ce pour que résoudre... vous dit, je crois aussi, l'archevêque, c'est qu'il y avait des casques bleus effectivement et qu'ils sont restés à l'écart, et que même certains, en tout cas c'est ce que vous rapporte l'archevêque, certains riaient.
Oui, alors ça c'est aussi l'hystérie de la rumeur en Centrafrique, où on a tendance aussi à voir dans l'étranger la cause de tous les malheurs du pays. Et il y a un discours très virulent contre les casques bleus et contre les Français en ce moment en Centrafrique, qui est une sorte d'échappatoire pour trouver des boucs émissaires.
Sans compter qu'il y a une véritable guerre de l'information, on va y revenir. Mais vous parliez de la Russie, parce qu'effectivement, il y a des bataillons qui sont formés par une mission de l'Union européenne, mais aussi par la Russie. Il y a là une nouvelle promotion, c'est ce que vous dit le président, qui vient tout juste de finir sa formation, et c'est les Russes qui les ont formés. Ça fait plusieurs mois qu'on sait que des acteurs russes sont sur place. Alors d'abord, c'était de façon un petit peu informelle, et puis de plus en plus, on sent que les choses se formalisent et que ça s'affirme. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui du rôle exact de la Russie en Centrafrique ?
Déjà, à la base, les Russes ont joué de manière magistrale. C'est-à-dire que, alors que tout le monde, même au sein du Conseil de sécurité, il y avait beaucoup de pays qui disaient, là, ces deux dernières années, il faut lever l'embargo, du moins de manière partielle. La France avait milité pour cette levée partielle de l'embargo et avait même proposé de fournir des armes à la nouvelle armée centrafricaine. On se heurtait jusqu'à fin 2017 au veto des Russes, qui refusait toute levée de l'embargo sous divers prétextes. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé ? Tous les pays, France compris, du Conseil de sécurité, sont allés voir les Centrafricains en leur disant « Ben voilà, il y a quelque chose qui visiblement bloque avec les Russes. Allez les voir, discutez avec eux pour voir pourquoi ils s'opposent à cette levée de l'embargo. » Les Russes et les Centrafricains se sont rencontrés et les Russes ont dit « Bien sûr, on entend votre discours, on va accepter une levée partielle de l'embargo et c'est nous qui allons vous fournir les armes. » Donc, tout le monde s'est retrouvé finalement pris dans un bouleversement d'alliance qui a permis aux Russes d'apparaître à la fois comme finalement de jouer un rôle positif.
Compter qu'en plus ils en ont fourni les armes.
Ah, ils les ont même offert. La France proposait de les vendre. Ils les ont données. Et ils ont proposé.
Donc ils ont contourné l'embargo.
Non, c'est un an. Ils ont la levée de l'embargo partiel a été acceptée à partir du moment où eux ont levé leur veto. Mmh. Profitant de cette levée d'embargo partiel, ils ont dit non, nous on vous les vend pas, on vous les offre en trois livraisons. Et ça a pris tout le monde de court, parce que personne ne s'attendait à ce que les Russes, qui étaient quand même depuis longtemps plutôt absents du terrain africain, soient offensifs à ce point. Aujourd'hui, résultat des courses, non seulement ils parachèvent en réalité la formation entamée par l'Union européenne, mais avec beaucoup plus d'image et de visibilité que ne le fait l'Union européenne. Mais ils ont placé aux côtés du président Touadéra un conseiller de sécurité qui visiblement le suit comme son ombre. Évidemment, étant donné que ce nouveau partenariat se fait de manière très originale en mobilisant le secteur privé, même pour la formation de l'armée, on assiste à l'arrivée en Centrafrique d'entreprises privées qui ont un volet militaire, mais aussi un volet business.
Parce que le but derrière, c'est quand même de profiter de cette extrême richesse, parce que la Centrafrique, il y a des minerais absolument partout, donc il y a évidemment un intérêt qu'on comprend. Vous parliez de visibilité, aujourd'hui vous publiez dans Libération un article consacré au concours Miss Centrafrique, qui est organisé par qui ? Par les Russes justement.
Parrainés
par les Russes, qui ont donné de l'argent. C'est pas du tout anodin, et ça en dit long justement sur la manière dont les Russes déploient leur stratégie pour s'imposer en Centrafrique.
Ah oui, absolument. C'est-à-dire que ils ont très bien compris que soutenir ce genre d'initiatives qui peuvent paraître un peu dérisoires et un peu kitsch leur offre une visibilité à très faible coût et leur permet de s'afficher comme des bienfaiteurs de la Centrafrique. D'ailleurs, faut reconnaître qu'aujourd'hui, malgré l'étrange assassinat de trois journalistes russes fin juillet, les Russes sont plutôt populaires en Centrafrique. On considère que c'est eux qui forment l'armée au grand dam des formateurs de l'Union européenne parce que ils s'affichent beaucoup plus avec les bataillons qu'ils forment. Ils parrainent l'élection de Miss Centrafrique qui, dans, comme dans toute culture populaire, est un événement qui plaît, qui attire les populations.
Et ils offrent des trampolines aux jeunes centrafricains dans les écoles.
Ça, je pense, c'est un concept en marketing qui mériterait de s'appeler la stratégie du trampoline parce que ils débarquent dans des écoles. Moi, j'en ai visité quelques-unes qui sont dans un état mais désastreux, avec des salles remplies d'enfants mais surpeuplées, des écoles où il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas l'électricité, il y a souvent pas de toilettes, dans des salles totalement délabrées.
Mais il y a des trampolines
que, russes. Les besoins seraient ailleurs, ouais. Mais on va dans la cour et on voit l'immense trampoline russe avec sa banderole amitié Russie-Centrafrique et tout le quartier voit ça.
La MINUSCA, Maria Malagardis, donc la mission de la paix des Nations Unies, qui a été mise en place en 2014. Vous avez rencontré son chef, Parfait Onanga Onyanga, un Gabonais, et le jour où vous le rencontrez, son bureau publie un communiqué qui dénonce une rumeur de collusion entre la MINUSCA et la France pour favoriser le chaos dans le pays. La véracité de cette thèse et l'ampleur de cette guerre de l'information qui visiblement se joue de façon extrêmement prégnante aujourd'hui en Centrafrique.
Oh, la véracité de cette thèse, c'est que ça semble être du grand n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'on assiste depuis peu en Centrafrique, et là, on ne sait pas vraiment qui est derrière cette tendance, à des discours extraordinairement violents contre la France et contre la MINUSCA. La MINUSCA, ça fait déjà un peu plus de temps, mais ils sont régulièrement sur les réseaux sociaux et dans certains journaux qui paraissent en ville, accusés sans aucune preuve de fomenter des complots, d'envoyer des mercenaires, où vous parliez tout à l'heure des propos d'un évêque qui accusait les casques bleus d'avoir ri pendant qu'on massacrait les gens. Ce genre de propos sont évidemment extrêmement explosif pour les gens qui sont finalement touchés par ces tragédies ou qui en entendent parler. Et ça, c'est quelque chose de très régulier, de très récurrent. Et c'est vrai que aussi bien l'ambassade de France que la MINUSCA ont globalement une stratégie, on va pas aller sur ce terrain-là, on va pas répondre. Mais visiblement, le jour où j'ai vu le chef de la MINUSCA, ils ont considéré que l'ampleur de cette rumeur,
c'est
la
trop
façon,
importante pour pas répondre.
Voilà, et la violence de ce qui était finalement annoncé était trop important pour ne pas répondre.
Il n'empêche que il y a quand même un certain nombre de voix, Maria Malagardis, qui s'élève pour dire que cette MINUSCA, elle n'est pas en capacité de garantir la paix en Centrafrique, et ça, c'est difficile de dire autre chose. Il y a cette question de la passivité des casques bleus, on les critique beaucoup pour ça. Que répond justement ce chef de la MINUSCA sur ces accusations de passivité, et de façon plus globale, comment est-ce qu'il explique la faillite de cette mission? Est-ce qu'on peut parler de ça? On a aujourd'hui quoi, 12 000 hommes qui sont sur place. Alors évidemment, il faut bien comprendre que la Centrafrique, c'est immense, c'est plus grand que la France, et que c'est extrêmement difficile de sécuriser cette zone.
C'est la France et la Belgique réunies avec trois axes bitumés. Donc à partir de là, on est déjà dans une configuration extrêmement compliquée. Maintenant, je dirais que la faillite des missions de la paix en Afrique, c'est une grande constante. On irait voir en RDC, c'est la même chose. Au Mali, c'est pas plus brillant. Lui, ce qu'il rappelle, au-delà de, on va dire, de faillite humaine et presque stratégique, qui sont propres à toutes les missions de l'ONU sur les terrains africains, et on pourrait gloser à l'infini sur le fait qu'il y a des gens qui viennent pour avoir un 4x4, un salaire, et que finalement l'avenir du pays ne les intéresse pas. Que quand moi j'ai voulu me rendre dans le quartier du PK5, j'ai demandé au départ à suivre une patrouille de la MINUSCA. Elle a été deux fois annulée parce que ça tirait. Donc quand ça tire, ils n'y vont pas. Mais donc ça ne sert à rien d'y aller si ça ne tire pas. Et finalement, je m'y suis rendue par mes propres moyens parce que il n'y avait aucun casque bleu sur place qui voulait m'accompagner. Donc il y a évidemment ces fragilités qu'on retrouve encore une fois dans tous les pays en Afrique. Ce que Parfait Onyanga souligne et qui est également très pertinent, c'est 12 000 hommes, ça peut sembler beaucoup. Mais sur un territoire aussi immense et aussi privé de communication, c'est une tâche impossible.
Alors, il en demande plus.
Alors, lui, ce qu'il dit, c'est bon, d'abord, on lui a accordé plus l'année dernière. On attend, après, c'est la lenteur bureaucratique propre à l'ONU, on attend encore 350 personnes. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que, de toute façon, il va falloir trouver d'autres solutions que la riposte militaire simple. Parce que, de toute façon, le territoire est tellement immense, les explosions d'affrontements sont tellement... arrive tellement par surprise que il faudrait dans ce cas-là décupler les moyens. Alors il dit c'est sûr que j'aurais aimé avoir plus d'hommes, c'est sûr que dans les stratégies qui ont été adoptées pour sortir la Centrafrique de la crise, on a parfois mis la charrue avant les bœufs, on a déployé 12 000 casques bleus sans réfléchir aux défis politiques et économiques, parce que finalement au fond ce pays, de quoi souffre-t-il au dehors de ce pseudo-conflit intercommunautaire dans un pays qui, en réalité, n'avait jamais connu de guerre de religion et qui est quand même, c'est vrai dans d'autres pays africains, mais en Centrafrique, ça atteint des sommets, l'un des pays d'Afrique où on rencontre le plus de musulmans qui boivent et de chrétiens polygames. Donc, il y a quand même autre chose qui partage la même langue. Ce qui manque, c'est l'argent et le développement. C'est ça le
vrai problème. Et le président Ouédéra, de ce point de vue-là, est-ce qu'il essaye de développer un peu le pays? Parce qu'on comprend bien qu'évidemment, la réponse ne peut pas être seulement sécuritaire.
Le président Ouédéra, le problème qu'il a, c'est que c'est malheureusement un président qui règne sur une portion très réduite du territoire, vu que les deux tiers sont aux mains de seigneurs de la guerre. Donc, il envoie des préfets qui n'ont aucun pouvoir sur leur territoire. Il n'y a pas de banque. Donc tous les fonctionnaires que l'État veut déployer chaque mois doivent retourner à Bangui pour toucher leur salaire. Donc on est dans une situation assez inextricable qui mériterait beaucoup plus d'attention. Et parfait, Onyanga, je sais plus si je l'avais laissé dans l'interview, mais c'est vrai qu'à un moment il disait il faut pas, c'est vrai qu'on finalement on parle beaucoup de la Centrafrique, il y a un paradoxe, on parle beaucoup de la Centrafrique en disant tout le temps qu'on n'en parle pas assez, mais c'est quand même un pays qui est relativement couvert, qui revient dans l'actualité, mais ça n'empêche pas que au niveau de l'argent fourni aux agences onusiennes, aux donateurs, surtout le volet social et développement, on est loin du compte. L'UNICEF a publié un rapport la semaine dernière pour expliquer que dans ce pays où tout pousse, les enfants meurent de faim. En fait, conclut son rapport en disant que face à cette situation de pré-famine, de crise alimentaire d'urgence, eux, ils n'ont pu couvrir que les 55% des moyens qu'ils ont demandés.
Un tout dernier mot, Maria Malagardis, parce que vous avez dit à un moment, vous avez parlé de pseudo-conflit interconfessionnel. C'est vrai, quand il y avait eu ces affrontements en 2013-2014 entre les milices et les cas à majorité quand même musulmane et les groupes d'autodéfense à majorité chrétienne, on avait analysé ces violences beaucoup, et peut-être trop d'ailleurs, par le prisme des confessions. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que les affrontements ont encore un caractère confessionnel? Est-ce que, par exemple, justement, ces 60 personnes qui ont été tuées à Alindao, donc on est dans une petite localité à 300 km de la capitale, est-ce qu'il s'agissait là de violences interconfessionnelles ou pas?
Oui, dans ce cas précis, c'est effectivement le cas, parce que, surtout dans ces régions reculées, on a des populations qui sont faciles à instrumentaliser, et donc il suffit qu'un chef de guerre leur dise « Voilà, c'est les autres qui ont tué un musulman à 100 km » pour que tout le monde se lève comme un seul homme. Et si on prend par exemple l'exemple de PK5, cette enclave au cœur de Bangui, l'essentiel des affrontements aujourd'hui, c'est entre groupes d'autodéfense censés protéger la population musulmane et commerçants qui en ont assez d'être raquettés au nom de cette protection.
Donc il y a une confessionnalisation en réalité du conflit, il y a d'autres choses derrière.
Oui, même si aujourd'hui on voit bien que c'est plus des chefs de gang qui manipulent des populations qui sont de toute façon désespérées et très traumatisées à la base.
Merci beaucoup Maria Malagardis d'être passée dans nos studios. Je rappelle que vous êtes journaliste pour Libération, qu'on peut retrouver sur le site de Libération des articles déjà publiés et aujourd'hui dans la version papier, donc c'est fameux article sur le concours Miss Centrafrique qui dit bien plus que le seul concours lui-même. Merci infiniment.
Merci.
Pale pale wanaza kujuta singejua.
va tourner cette page centrafricaine pour se diriger du côté de l'Allemagne, alors que se tient le congrès de la CDU qui doit désigner un successeur ou une successeuse à Merkel. Allemagne, bye bye Angela, c'est notre sujet ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Oui, aujourd'hui, l'Union des chrétiennes démocrates allemandes se réunit en congrès pour organiser la succession d'Angela Merkel. Après presque deux décennies à la tête du principal parti de la première économie d'Europe, elle a décidé de se retirer.
En décembre prochain, lors du congrès de la CDU à Hambourg, je ne présenterai pas ma candidature à la présidence du parti. Ce quatrième mandat de chancelière sera le dernier pour moi, car je ne me présenterai pas en 2021, ni au Parlement, ni à aucune autre fonction politique.
Voilà, Angela Merkel donc qui a annoncé le 29 octobre dernier qu'elle se retirait de la tête du parti, un parti qui est particulièrement affaibli. Il va donc falloir redonner de l'élan à cette formation politique qui avait obtenu son pire score depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. De la Seconde Guerre mondiale lors des dernières élections fédérales de 2017, et peut-être même revoir la stratégie du parti. Alors, quels sont les candidats à la succession? Quel bilan politique, économique, social, diplomatique est-ce qu'on peut faire de la chancelière allemande dont la longévité n'a pas d'équivalent en Europe? Hans Stark et Christian Dawson sont nos invités. Marc Semo, notre partenaire du Monde, comme chaque vendredi. Marc, Angela Merkel est arrivée à la tête de la CDU en 2000. Elle a succédé à Gerhard Schröder, 2005, comme chancelière. Il y a quelque chose d'absolument fascinant de se dire que cette femme est parvenue à se maintenir au pouvoir pendant presque 15 ans, sachant qu'elle avait été déjà ministre en 91 dans le cabinet d'Helmut Kohl, donc ça fait 27 ans. C'est vraiment une page qui se tourne là.
Oui, c'est une page qui se tourne. Ensuite, c'est une très grande politique. D'ailleurs, elle n'avait jamais caché sa fascination pour Catherine II de Russie, d'origine allemande. Il y avait toujours un petit portrait de Catherine II dans son bureau. Mais à l'heure du bilan, ce qui est frappant, c'est à quel point ses camarades de parti, à commencer par ses trois potentiels successeurs, ne sont pas tendres pour elle et soulignent lourdement que certaines de ses décisions, alors le mariage pour tous, le retrait du nucléaire, mais surtout l'accueil des réfugiés en août 2015, avaient mis profondément le parti CDU en crise avec son électorat. Ensuite, les commentateurs, en Allemagne ou même à l'extérieur, ne sont pas plus tendres non plus. Ils soulignent son manque de décision et de courage, son manque de vision pour l'Europe, ses trop grandes hésitations. Avec en filigrane cette idée, notamment à l'étranger, on le voit même en France, que finalement cette fille de pasteur protestante, grandie à l'Est, était finalement très loin de l'Europe rhénane, et que ça explique bien des choses. Or justement, c'est peut-être le contraire. C'est parce qu'elle avait grandi à l'Est, parce que l'Europe était quelque chose d'inatteignable, que pour elle, l'Europe a toujours été un grand rêve et un symbole. Et c'est peut-être ce qui explique le mieux ce pourquoi, en août 2015, au moment où il y avait cette déferlante des réfugiés, elle a dit « je ne veux pas de nouveaux murs en Europe, je ne veux pas de nouveaux barbelés », et elle a lancé son célèbre slogan « Wir schaffen das, nous y arriverons » pour accueillir les réfugiés. Et le départ d'Angela Merkel, alors par ailleurs elle reste au gouvernement, 56% des Allemands veulent qu'elle reste au gouvernement, avec Merkel en tout cas, c'est après Benoît XVI, j'y tiens, le seul grand leader moral allemand d'envergure internationale, et peut-être une autre carrière s'ouvre potentiellement à elle.
Alors, il y a plein de choses qu'il va falloir évoquer, la question de la succession, la question de la montée aussi en puissance de l'extrême droite, parce qu'effectivement l'accueil de ces migrants, ça a aussi permis cette percée de l'extrême droite, mais d'abord sur cette longévité, Hans Stark et Christian Dawson, qu'est-ce qui explique selon vous cette extraordinaire longévité d'Angela Merkel? Est-ce que c'est dû au fond à un environnement politique propice, ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose dans la personnalité qu'évoquait un petit peu Marc Semo, dans la manière aussi d'exercer le pouvoir qu'il explique, Christian Dawson?
Je pense que vous avez bien donné déjà la réponse. Il y a quelque chose dans sa personnalité qui a favorisé qu'elle se maintienne aussi longtemps au pouvoir. Il y a toujours une sorte de calme, de sérénité autour d'elle. Il n'y a jamais de la précipitation, et je pense ça dans un monde qui traverse beaucoup de crises. Elle a connu surtout la première crise financière en 2008-2009. Elle a traversé la crise de l'euro, ensuite la crise migratoire. Ça, c'était des moments cruciaux pour elle, très difficiles. Et là, elle a quand même toujours montré une sorte de sang-froid. Je pense que ça a toujours aidé à lui construire une image qui la mettait un peu en dehors de tout ce qui était conflictuel. En même temps, c'est aussi ça qui est peut-être aujourd'hui la difficulté, parce qu'on lui, reproche de ne pas avoir ouvert, mais on va sans doute en discuter, pas en avoir ouvert la discussion et encourager le débat dans la société.
Du coup, extrêmement fragilisée à l'intérieur de son propre camp. Anne Stark, est-ce qu'elle est fragilisée au point de éventuellement devoir laisser le pouvoir avant le terme de son mandat? Parce qu'il y a un certain nombre de voix qui s'élèvent pour dire que c'est souhaitable, certains le disent, d'autres le disent, ils disent que c'est en tout cas très probable. Vous y pensez? Vous y croyez, vous, après les élections européennes, on pourra imaginer une Angela Merkel qui rend son tablier?
Le problème, c'est que vous me posez la question trop tôt, parce qu'on le saura cet après-midi. Beaucoup dépend évidemment de la personne qui va être choisie être président de la CDU. Nous avons d'un côté la personne qu'elle a choisie elle-même, Angela, pour lui succéder, Angela Kramp-Karrenbauer,
qu'on dit Annegret, vous avez dit Angela, Annegret.
Voilà, je dis Angela.
Oui, vous avez dit Angela.
C'est lapsus. Parce que j'ai presque fait par exprès, parce qu'on dit que c'est une Merkel 2.
Mini Merkel.
Donc Annegret, voilà. Et face à elle, un revenant.
Friedrich Merz,
parce que, Merz, c'est assez compliqué pour elle, parce que lorsqu'elle émerge comme figure politique sur la scène allemande dans les années 90, il y avait à l'intérieur de la CDU un club de jeunes hommes qui avait fondé un pacte dit Andin, parce que j'étais en voyage dans les Andes, et ils avaient décidé que le prochain chancelier viendrait de quelque part du milieu qu'ils avaient fondé. En réalité, elle les a complètement surpassés. Elle ne faisait pas partie de ce pacte, premièrement, et puis elle les a tous plus ou moins éliminés, politiquement, bien entendu. Il y en a qui font plus de la politique, d'autres sont juste restés ministre-président d'un land. Et donc, l'un d'entre eux, c'est ce Friedrich Merz, qui était en passe de devenir le prochain chancelier, qui était à la tête du groupe parlementaire de la CDU, c'était en 2002, d'ailleurs. Et en 2002, Merkel, déjà présidente de la CDU, a fait un coup magistral. Aux élections de 2002, elle a dit « Je ne me présente pas, je laisse la candidature au chef de la CSU », et elle savait pertinemment qu'il allait perdre. Et en contrepartie de ce petit deal, comme dirait M. Trump aujourd'hui, elle a dit à ce pauvre candidat de la CSU « Je te soutiens pour les élections de 2002, mais en revanche, toi tu me passes la présidence du groupe parlementaire ». Ce qu'il a fait au lendemain des élections. Et donc, du coup, Merkel se trouvait à la fois à la tête du parti et à la tête du groupe parlementaire. Ce qui a déclenché sa longue carrière et surtout ce qui a, entre guillemets, permis de dégager M. Merz, qui a gardé la mémoire vive de ce moment crucial et douloureux pour lui.
Alors, il y a ce duel Annegret Kramp-Karrenbauer et Friedrich Merz, mais il y a aussi un outsider qui est Jens Spahn, le jeune ministre de la Santé. Il a 38 ans. Donc il est assez jeune. On va voir ce qui peut en être de la succession. Mais d'abord, Marc Sémo.
Oui, si on regarde les sondages, je reviens, sa popularité a recommencé à monter. Après la suite d'échecs au régional ou diverses élections dans l'univers Länder, sa popularité remonte. Donc aujourd'hui, finalement, est-ce que l'anneau faible, est-ce que le destin de Merkel en tant que chancelière ne dépend pas finalement du SPD, qui est l'anneau faible, qui, élection après élection, voit ses voix diminuer. Maintenant, c'est quasiment le quatrième parti. Enfin, entre le troisième et le quatrième, ça dépend des moments. Et alors, effectivement, le SPD est dans une situation terrible, parce que s'il décide de se retirer d'élections anticipées, il risque d'être encore plus laminé. S'il reste, il sera encore plus laminé. Donc, est-ce que c'est pas, finalement, quelque chose maintenant qui lui échappe?
Christian Dawson.
Je pense que vous avez dit le SPD. Moi, je dirais plutôt que ça dépend de la position et du positionnement de l'ancien ministre-président de la Bavière, de Seehofer. Parce que c'est Seehofer qui, d'après moi, avait toujours été, disons, à l'origine des conflits dans la grosse coalition, dans la fameuse GroKo, ces derniers mois. Et c'était autour de Seehofer que beaucoup de tensions entre les deux grands partis, CDU et SPD, se sont déclenchés. Moi, je pense que, ça reste... Tout peut se produire. Cette GroKo est pleine de surprises et de sursauts. Alors, on ne sait pas.
Hans Stark, et puis il faudra quand même que vous me donniez vos avis les uns et les autres sur qui pourrait, je sais bien que c'est cet après-midi, mais il va falloir que vous mouilliez un petit peu hein, et que vous nous disiez qui vous voyez pour succéder à Merkel, hein, Hans Stark.
Ça viendra. Alors oui, le SPD est sans doute le maillon faible de ce gouvernement, et en plus le SPD s'est fixé un rendez-vous pour tirer un premier bilan de 2 années de grande coalition, ce sera l'année prochaine, et ça va être un moment crucial. Alors l'année prochaine sera de toute façon donc 2019 difficile pour Angela Merkel, qui peut durer. Je n'exclus pas du tout qu'elle se maintienne à la chancellerie pour les raisons que Marc a évoquées à l'instant jusqu'en 2021, mais 2019 sera une année très difficile pour elle. Un, parce que nous avons les européennes, et aux européennes, en général, l'électorat vote plutôt se dirige vers les partis dites protestation, donc l'AFD risque de faire un très bon score, hélas. Et surtout, nous avons ensuite, en automne, 3 élections régionales dans les nouveaux Länder, où l'AFD va dépasser 20%, et la Saxe pourrait devenir même le premier Land où l'AFD devient premier parti. Ça va vraiment compliquer la donne, et là la CDU pourrait se dire il faut un sursaut, il faut un changement radical, il faut changer, notamment si c'est Merz qui l'emporte aujourd'hui.
Vous pensez que c'est lui qui va l'emporter ?
Alors on verra. Alors au niveau des sondages, c'est Annegret Kramp-Karrenbauer qui est devant. Donc elle a la sympathie des électeurs allemands, ne serait-ce que ça se reflète d'ailleurs dans les 56% de soutien à Angela Merkel. C'est-à-dire c'est vraiment Kramp-Karrenbauer, ça c'est le social, c'est l'Europe, c'est une femme, c'est la mise en avant aussi du recentrage politique de la CDU qui a permis à ce parti chrétien-démocrate d'être élu par des personnes qui n'ont jamais voté pour la CDU auparavant. En revanche, Merz, me semble-t-il, a quand même plutôt le soutien des délégués de la CDU. Et bon, je peux me tromper ce soir, je vais dire, oh là là...
Vous avez le droit, c'est pas grave.
Bon, si je me trompe, je pense quand même que Merz aura l'avantage, notamment aussi parce que c'est un excellent orateur, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Mme Kramp-Karrenbauer, with all my respect, et il risque vraiment de bien chauffer la salle. Il peut y avoir, parmi les indécis aujourd'hui, un vote qui va se faire au dernier moment, en fonction de laquelle Merz va convaincre les délégués de voter pour lui.
Christian Dawson, votre regard justement, qui selon vous est en position pour l'emporter? Et puis peut-être pour aller un tout petit peu plus loin, il y a évidemment cette question qui nous intéresse beaucoup, qui est celle de la relance européenne. Au fond, qui serait le bon candidat pour relancer l'Europe et peut-être un bon partenaire pour la relance telle qu'elle est pensée, disons, par Emmanuel Macron? Christian Dawson.
Difficile de dire qui l'emportera cet après-midi ou ce soir. Ça pourrait être l'un, comme Friedrich Merz, ça pourrait être aussi être Annegret Kramp-Karrenbauer. Je pense tout dépend aussi du débat au sein de cette conférence, de ce Parteitag, de cette assemblée aujourd'hui. Merz est très clivant. Et c'est ça, si son discours est peut-être trop orienté, trop agressif aussi, d'une certaine manière, je pense que là, un discours un peu apaisant, un peu plus dans le style de Merkel, pourrait être un avantage. Mais je pense que c'est à voir. Je pense que tout est ouvert.
Rappelons que Merz a des positions beaucoup plus fortes, radicales, sur la question de l'immigration. Et donc, ce serait finalement un virage clairement à droite. Une manière d'endiguer la montée en puissance de l'AFD. Hein, pour que les auditeurs, qui ne connaissent pas forcément parfaitement la politique allemande, s'y retrouvent. Marc, c'est bon.
Mais c'est justement là le point. C'est-à-dire, si on regarde la CDU, elle perd des voix sur sa droite, avec la montée de l'AFD, mais elle en perd autant, voire plus,
au centre avec les Verts.
Au centre avec les Verts. Et d'une certaine façon, ce virage à droite toute la mettrait beaucoup plus en difficulté. Donc, quelque part, il faut que même si elle va changer de ton, un peu, prendre un discours plus conservateur, elle ne peut pas là-dessus se couper de ce nouvel électorat qui a été amené par Angela Merkel et qui fait, malgré tout aujourd'hui, la force de la CDU.
Hans Stark, c'est quoi la bonne stratégie politique? C'est aller vers la droite pour justement contenir la montée en puissance de l'AFD, ou c'est plutôt quand même rester un peu plus au centre pour éviter le grignotage des Verts? Alors, c'est tout le dilemme, c'est toute la question que se pose le parti, là, aujourd'hui.
Oui, le parti est divisé là-dessus, et d'ailleurs, des courants apparaissent, ce qui n'a jamais été le cas au sein de la CDU, hein. Il y a des courants qui apparaissent. Il y a un autre courant qui est puissant et qui porte Merz, c'est le courant autour de M. Schäuble. Donc Schäuble, c'est quand même le numéro 2 de la CDU, une des autres victimes d'Angela Merkel il y a très longtemps, qui aujourd'hui prend fait et cause pour Merz et qui l'a même sorti de sa réserve, hein, puisque Merz, pendant quelques années, a fait une carrière dans le privé. Donc c'est un point important. Schäuble vient du Land du Baden-Württemberg. C'est un land très important au sein de la CDU. Sur le plan économique, c'est le land le plus dynamique, le plus puissant. Or, il y a à l'intérieur de la CDU, il y a trois regroupements qui représentent, à des échelles diverses, les petites et moyennes entreprises. Le patronat. Et ce groupe-là est à fond pour Friedrich Merz. Donc Merz ne représente pas que un virage à droite, mais aussi une orientation dans un sens plus libéral du terme. Et dans la mesure où Merkel a fait beaucoup de social ces dernières années, même en Allemagne, ça peut surprendre ici, mais elle a fait du social, et même si ça peut être jugé très insuffisant lorsqu'on vient de la gauche, pour la CDU, elle en a fait
niveau,
trop.
Et lorsqu'on regarde aussi le niveau de pauvreté en Allemagne, qui s'est accru, hein, depuis, quand on regarde un peu les chiffres depuis entre son arrivée au pouvoir et aujourd'hui, on voit que ça a augmenté.
Elle s'est accrue au niveau des plus précaires, et ce sont les immigrés. Quand on regarde, par exemple...
Ça s'est accru aussi chez les retraités, par exemple.
Les retraités, mais par exemple, au niveau des enfants, l'enfant, c'est aussi qu'on a des problèmes de pauvreté. Les enfants de parents allemands s'en sortent plutôt mieux qu'il y a 10 ans, alors que les enfants d'origine étrangère, immigrés, ont de grandes difficultés.
Christiane Deussen, sur ce dilemme, est-ce qu'il faut aller plus à droite? Est-ce qu'il faut garder le centre? Enfin, comment on fait?
Oui, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre. Je pense qu'on ne peut pas dire sans doute que il faudrait, si on peut donner un conseil, il faudrait plutôt tendre vers la droite ou cibler le centre. Je pense qu'il faut faire les deux à la fois. Oui, mais on l'a vu déjà avec quelques propos de Annegret Kramp-Karrenbauer, qui a aussi été quelquefois plus à droite que dans les questions sociétales aussi. Elle est contre le mariage, plus ou moins contre le mariage de tous. Et elle a aussi fait des propos assez étonnantes vis-à-vis des réfugiés ou des réfugiés qui seraient devenus criminels, etc.
Il n'empêche que c'est la plus souple sur les questions migratoires des trois candidats qu'on a évoqués.
C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, on l'avait pas encore mentionné. Je pense qu'il y a encore un autre, partie au sein de la CDU qui la défend. Bon, et vous voyez, je pense que les chances pour Annegret Kramp-Karrenbauer sont pas les moindres. C'est la Frauenunion, l'Union des femmes, qui est très, très importante et elle peut se baser là-dessus. En ce qui concerne, vous avez posé la question vis-à-vis de l'Europe, peut-être aussi les relations vers la France. Je pense là, en tout cas, on sait, je pense, tous les trois sont pro-européens. Là, il n'y a pas de question, je pense. Mais je pense que Annegret Kramp-Karrenbauer, déjà par son expérience aussi en tant que ministre-présidente de la SAR, très proche de la France d'ailleurs, avec une stratégie, stratégie France, qu'elle a développée depuis 2014 en SAR, je pense que ça pourrait être sans doute un interlocuteur pour la France, pour Macron, plus facile.
Oui, et vous savez de quoi vous parlez, puisque vous l'avez, je crois, reçu à la maison Heinrich Heine. Donc, vous Absolument. Avez eu l'occasion, justement, d'en savoir plus sur ce point. Place à notre partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs du monde entier. Le vendredi, on sélectionne un dessin en fonction de notre actualité du jour. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon vieux.
Assis.
Quand le dessin éclaire l'actualité. Bonjour Mélanie Chalandon.
Bonjour Florian, bonjour
Alors,
à tous.
Ce dessin du jour nous vient de...
Eh bien, il nous vient de Hollande. Il est signé Tjerd Royaert. C'est un dessinateur donc hollandais basé à Amsterdam. On l'a déjà croisé dans cette chronique une fois au moins. Il croque l'actu pour le Guardian, le Spiegel ou encore CNN. Je rappellerai qu'il est aussi rédacteur en chef du site Cartoon Movement, une plateforme mondiale pour le dessin de presse et le journalisme graphique. Alors, eh bien, dans ce dessin, nous avons une représentation de la maison européenne, symbolisée ici par un temple grec. On voit un fronton aux couleurs du drapeau européen. Il est supporté par une série de colonnes, des cariatides pour être exact. Ce sont des statues de femmes vêtues de longues tuniques. Elles soutiennent de leur corps l'ensemble de l'édifice. Et on voit que l'une de ces cariatides est bien vivante. Il s'agit d'Angela Merkel, la chancelière allemande, qui elle aussi soutient par son corps la partie haute du temple. Elle se tient là, bien droite, les pieds sur le socle, la tête sous le chapiteau. Point de tunique grecque pour elle, mais l'une de ses indémodables vestes couleur vive, rouge vif en l'occurrence, et dans ses mains, une pancarte sur laquelle il est écrit « Leaving soon ». Et oui, car elle sera bientôt partie et l'Union européenne va perdre l'un de ses piliers, littéralement. C'est en tout cas ce que nous dit Royaerts dans ce dessin. Un autre élément important, c'est que le temple menace de s'écrouler. On voit une belle fissure courir le long de la corniche et des gravats sont déjà en train de tomber juste à côté d'Angela Merkel. Merkel qui d'ailleurs n'a pas l'air sereine face à l'imminence de l'effondrement. Son corps tremble légèrement, des gouttes de sueur coulent sur son visage. Elle regarde la fissure d'un air inquiet. Inquiète, elle l'est visiblement pour elle, pour l'Europe peut-être. À moins qu'elle ne se sente coupable, coupable de partir alors que visiblement et eh bien si la maison est encore debout, c'est grâce à elle, enfin si l'on en croise des seins. Et c'est vrai qu'on ne voit aucun autre dirigeant européen pour partager le fardeau, tout repose sur ses épaules à elle. Bref, il y a clairement un côté Angela sauveuse de l'Europe dans cette caricature. Mais est-ce si vrai après tout, que ce soit sur l'économie, la politique, la diplomatie? Toutes les décisions allemandes ces 13 dernières années sont-elles toujours allées dans le sens de la défense du projet européen? Pas plus tard que cette semaine, eh bien, l'Allemagne a pesé de tout son poids pour revoir à la baisse l'ambitieux projet de taxe européenne sur les géants du web, par crainte notamment de représailles américaines sur son industrie automobile.
Merci Mélanie Chalandon. On tweet tout de suite, on met sur la page Facebook et évidemment sur la page de Culture Monde, www.franceculture.fr. Christiane Dawson, on start réaction sur ce dessin. Alors c'est vrai que Merkel sauveur ou fossoyeur de l'Europe, c'est-à-dire en se retirant, elle pourrait effectivement faire effondrer l'édifice.
Non, je pense que c'est excessif malgré tout.
C'est une caricature.
C'est une caricature, donc la guerre est toujours excessive. D'abord, en raison de toutes les réserves que vous avez exprimées à l'instant. Et ensuite, même à Friedrich Merz, pour moi, il est dans la tradition d'un Helmut Kohl, notamment au niveau de ses engagements aussi transatlantiques, y compris européens. D'ailleurs, il a signé un papier avec Jürgen Habermas sur l'introduction d'une assurance chômage européenne. Alors, est-ce que c'était la feuille de vigne qui cache autre chose, ça je n'en sais rien, la bonne conscience in fine, mais en tout cas, Merz, s'il est élu ce soir, c'est pas un Salvini en puissance.
Christiane Dawson, finalement, là c'est un l'édifice européen, mais on pourrait presque se demander si l'édifice de l'AFD pourrait pas aussi s'écrouler avec le départ de Merkel, parce que d'une certaine manière, si l'AFD a percé, c'est précisément parce que Merkel a ouvert les portes du pays et a laissé rentrer tous ces migrants, et l'AFD s'est nourri justement de cette défiance vis-à-vis d'Angela Merkel, cette défiance vis-à-vis de sa politique migratoire. Est-ce que en se retirant, d'une certaine manière, l'AFD pourrait pas lui aussi un peu s'écrouler, ou en tout cas reculer? Le simple fait qu'elle s'en aille ne va-t-il pas affaiblir l'AFD, l'extrême droite?
Je suis très réservée là-dessus. Je pense que ça ne sera pas comme ça, mais même si l'AFD connaît toujours des difficultés, d'ailleurs c'est incroyable le carrousel des personnes dirigeantes à la tête de l'AFD, c'est incroyable à quel point ça peut tourner. Actuellement, ils ont toute autre difficulté, question du financement du parti qui est derrière. Il y a aussi oui, ça c'est, et les dirigeants entre eux sont pas je pense clairs, mais je pense pas qu'il y ait un lien avec le retrait de Merkel. D'ailleurs, on n'a pas encore parlé si Merkel n'est plus à partir de ce soir présidente du parti. Elle reste pour l'instant encore chancelière.
Oui, bien sûr. Bah, ce soir, elle ne sera plus présidente du parti, quoi qu'il arrive. Maximo, elle n'est pas candidate.
Alors, est-ce que justement, à cet égard, le vrai problème n'est pas tant qui va lui succéder à la tête du parti, puisque les trois, alors, ça gagne de façon un peu différente, est tout à fait pro-européen. Mais le problème, c'est toujours dans le moqueur franco-allemand, il y a les deux. Et aujourd'hui, il y aura peut-être quelqu'un qui aura une nouvelle énergie, une nouvelle vision, peut-être même plus ample que celle de Merkel à la tête de la CDU. En revanche, est-ce que le partenaire français n'est pas là pour le moment en sérieuse difficulté et que tous les projets de grandes réformes, etc., lancés, hein, notamment la martingale, Emmanuel Macron a été de dire voilà, on fait les réformes en France pour être crédible et ensuite on fait un leadership européen avec l'Allemagne. Aujourd'hui, la partie française du moteur a l'air quand même d'être sérieusement en panne.
Vous faites non du doigt, Anstaff.
En panne, oui, ça c'est sûr et certain. Mais si c'est Merz ou même AKK, qu'importe, le nouveau président de la CDU ne peut pas commencer maintenant à faire de grandes initiatives européennes. C'est du ressort du chancelier ou de la chancelière. On serait immédiatement dans un conflit de compétences si Friedrich Merz commençait aujourd'hui à, derrière le dos d'Angela Merkel, à prendre contact avec l'Élysée, à s'afficher avec
Ça peut se faire avec son accord même pour gérer une transition.
Ça m'étonnerait beaucoup qu'elle donnerait son accord là-dessus. Non, il y a quand même un partage des tâches en Allemagne. Merz, qui est quelqu'un d'ambitieux, pourrait éventuellement tenter d'aller dans cette voie-là, mais on serait vraiment en conflit ouvert à partir de ce moment-là, et ce serait du désordre. Pour l'AFD, ils sont quand même maintenant à 18% dans les sondages. Ce qui nourrit le vote de l'AFD, ça dépasse maintenant la question de l'immigration en Allemagne. C'est aussi quelque chose que nous avons... Il y a beaucoup de parallèles avec le phénomène des Gilets jaunes. Donc il y a une colère froide, dure, haineuse, notamment en Allemagne de l'Est.
Oui, mais Angela Merkel incarne précisément cette colère de la même manière que Macron incarne cette colère.
Non. Ce qui incarne la colère, c'est Merkel, mais c'est aussi la presse. On parle de Lügenpresse depuis des années. Pegida parle de Lügenpresse. C'est exactement ce qu'on reproche au niveau des Gilets jaunes aux médias. En France, c'est la même chose. Vous avez ça, vous avez un rejet de l'élite. Merkel fait partie de l'élite. C'est le sommet, évidemment, dans une structure assez verticale. Mais au-delà, il y a beaucoup plus. Non, il me semble que même si avec Merkel, ils perdent un ennemi, ils en trouveront un autre. Ça se nourrit aussi d'une le phénomène AFD, d'une très forte... des ressentiments vraiment profonds en Allemagne de l'Est, à l'égard des Allemands de l'Ouest, par rapport à la façon avec laquelle on a fait l'unité allemande, par rapport à la répartition aussi des pouvoirs à l'intérieur de l'Allemagne. Il n'y a pas une entreprise du DAX, donc du CAC 40 allemand, qui est en Allemagne de l'Est. Au niveau de la représentation politique, même si Merkel est de l'Est, d'ailleurs, il la considère d'ailleurs pas comme étant de chez elle, de ce point de vue-là, ils sont très sous-représentés. Donc pour moi, l'AFD va rester un parti à problème encore pendant des années.
Il nous reste encore quelques minutes, on va essayer de faire vite, mais je voudrais qu'on aborde très rapidement la question du bilan diplomatique de Merkel, parce que l'Allemagne, vous le disiez, c'est quand même la première économie d'Europe, ce qui lui confère quand même un certain statut, une certaine estime vis-à-vis de ses partenaires européens, et pourtant, on a le sentiment que peut-être Merkel s'est pas appuyée pleinement sur cette capacité et ce statut, à la fois dans la relance du projet européen, mais aussi dans les grandes crises mondiales, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Ukraine. Alors vous me direz, évidemment, il y a peu de pays qui sont très efficaces, opérants sur ces crises-là, mais est-ce que vous, de façon générale, quel bilan vous portez-vous sur la diplomatie de Merkel? Est-ce que vous trouvez qu'il est à la hauteur de ce que la puissance économique de l'Allemagne aurait pu lui permettre de faire?
Ça dépend. Elle pourrait faire beaucoup plus en tant que grande puissance économique, évidemment. La France souhaiterait qu'elle fasse davantage, notamment en Afrique, pour intervenir. Mais à bien des égards, je pense que certaines réticences allemandes, vues avec de la distance, s'expliquent. Le vote de non-participation à l'intervention en Libye en 2011, ça a été du bon sens. De ce point de vue-là. On peut regretter que l'Allemagne ne soit pas intervenue en 2013 au Mali, mais aujourd'hui, ils y sont. Ils font un travail qui n'est pas négligeable. L'armée allemande est dans une situation déplorable. L'armée allemande, elle est sous-financée, elle est sous-équipée. Il y a un réel besoin de rattrapage de ce point de vue-là. Trump, avec toute la brutalité qu'il exprime, a raison. Et il a été entendu en Allemagne. Mais l'Allemagne reste quand même un pays parfaitement conscient de son poids, du poids historique que représente le nazisme, et ne va pas intervenir à tout va militairement. Je pense que ça ne changera pas. Et donc, là, pour terminer, un équilibre entre à la fois la responsabilité que l'Allemagne doit assumer en tant que première puissance économique en Europe, et la conscience qu'elle a du reproche qu'on formulerait si l'Allemagne deviendrait du jour au lendemain maintenant une nouvelle puissance sans retenue.
Marc Semo, et puis pour finir, Christiane Dawson.
Sur l'Ukraine notamment, l'Allemagne a été la plus engagée. Alors avec la France, mais ça a été quand même profondément, y compris parce que l'Allemagne connaît...
Oui, mais pour quel résultat
Pour quel résultat? Alors on peut dire les accords de Minsk ont en partie évité le pire, ça n'a pas réglé la question. Sans les accords de Minsk, probablement, la situation aurait été beaucoup plus grave. Et ça, c'est quand même... En partie
oui, mais on aurait pu penser que Merkel s'opposerait davantage à Vladimir Poutine. On a senti à un moment qu'elle était en capacité
elle lui a dit les choses, beaucoup plus que la France. D'autant qu'elle parle en VO avec Poutine et en allemand et en russe.
Et les sanctions sont d'origine allemande.
Absolument.
Christiane Dawson.
Bon, moi je pense qu'elle aurait pu faire plus, mais c'est pas dans son, déjà pas dans son tempérament, ni dans le rôle que l'Allemagne s'est attribué lui-même par son passé, ce que Hans Stark vient de dire. Elle a été ces derniers mois vraiment affaiblie, ça c'est clair, depuis les élections en 2017, et ça a beaucoup, je pense, contribué à un affaiblissement de sa personne au plan international, que de l'Allemagne aussi. Il me semble que c'est maintenant quelque chose que son successeur, qui sera peut-être pas, en tant que chancelier, qui sera peut-être pas celui qu'on va élire ce soir. Parce qu'il y a encore un personnage dont on n'a pas parlé, Armin Laschet, le ministre-président de la Nord-Rhénanie-Westphalie, qui apparemment a bien distingué et a tenu à dire ce matin encore, c'est une élection pour la tête du parti, mais ce n'est pas encore l'élection du futur chancelier.
Ce sera un séisme, parce que depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça a toujours été comme ça. C'est lui ou celle qui est à la tête de la CDU devient chancelier.
Non, je pense que cette fois-ci, ça pourrait être...
Je veux dire,
si ça change, c'est...
Oui. Il est quand
c'est
même bien installé. Le ou la personne qui va succéder à Merkel à la tête de la CDU. Mmh. Il est vrai que nous avons un ministre-président très très ambitieux en Rhénanie-Nord-Westphalie, qui a le soutien d'Angela Merkel. Mais à mon avis, il doit mettre entre parenthèses ses projets pour le futur. Car en effet, la personne qui va être élue aujourd'hui est le candidat naturel à la succession d'Angela Merkel en 2021.
Évidemment, des Rolling Stones. C'est pas tout à fait un hasard, parce que c'est la musique qu'utilisait Angela Merkel lors de sa première campagne en 2005. Angie, vous saviez, Hans Stark?
Tout à fait. Non, elle a soigné son image.
Absolument. Elle avait des atouts avec les Stones. Ouais. Merci beaucoup à tous. Hans Stark, je rappelle, donc membre de l'Institut français des relations internationales, professeur à la Sorbonne. Merci également à vous, Christiane Dawson, directrice de la maison Heinrich Heine, la Fondation pour l'Allemagne de la Cité universitaire de Paris. Un grand merci à vous, cher Marc Semo. Rendez-vous vendredi prochain.
À vendredi prochain.
Toujours le même problème avec les Stones, c'est que dès qu'on le diffuse, il y en a un qui débarque dans le studio, c'est Brice Couturier. À chaque fois, c'est pareil.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors une anecdote pour commencer. Une journaliste découvre l'été dernier qu'elle est censée diriger un nouveau site d'information sur Internet. Vous nous la présenter?
Oui, elle s'appelle Una Mullally et c'est une référence parmi les journalistes en Irlande. Éditorialiste au Dubliner, elle collabore aussi au Guardian britannique et aussi au Irish Times. Elle a été nommée d'ailleurs journaliste de l'année en 2015. Eh bien fin août, des amis l'ont contactée pour s'étonner du contenu de certains des articles publiés sur le site dont elle était la directrice éditoriale The British Left. Problème, Una Mullally n'a jamais créé de site et elle n'a pas créé de site qui s'appelle The British Left. Alors elle commandite une enquête à une compagnie privée de cybersécurité, FireEye, et ce que découvre cette compagnie, c'est que le site The British Left a été créé par le gouvernement iranien à destination du monde anglophone. Et ces lointains concepteurs n'ont rien trouvé de plus malin que d'utiliser son nom à elle pour attirer du public. Aujourd'hui, Google a retiré, j'ai vérifié, ce site de propagande iranien de ses références, mais il faut savoir que de tels sites, il en est d'autres tous les jours. Poutine a été l'un des premiers dirigeants politiques à saisir les potentialités de ce fantastique outil de manipulation que constitue Internet. Il utilise, on le sait, des usines à trolls et des bots pour faire passer sa propagande. Il l'a démontré durant les dernières élections américaines. Dernièrement, la Chine est intervenue de cette manière dans les élections à Taïwan en diffusant des fake news et en les faisant relayer par des dizaines de milliers de faux comptes. Steve Bannon, le grand manipulateur de médias largement utilisé par Donald Trump durant sa campagne électorale, est dorénavant à la manœuvre en Europe. Il faut donc rester vigilant.
Et la lutte, par contre, Brice, pour le contrôle de l'information et l'influence des esprits, ça date pas d'hier quand même.
La guerre de propagande est centenaire. Le fondateur de la science des médias, Walter Lippmann, travaillait durant la Première Guerre mondiale au Committee on Public Information, cet organisme gouvernemental américain chargé de vendre l'entrée en guerre des US aux côtés des Britanniques et des Français. Il y côtoya, il faut savoir, Edward Bernays, le neveu de Sigmund Freud et le créateur de l'industrie des relations publiques. Comme le rappelle le chercheur Vassili Gatov, la propagande était considérée comme l'une des armes décisives de la guerre par le régime hitlérien et les communistes au pouvoir en Russie. Ils voyaient l'outil politique réellement décisif. À l'ère des masses, la capacité à faire basculer les opinions publiques, à influencer la conscience collective, devenait capitale. Cela fait longtemps que Régis Debray a montré le lien qui existe entre les médias et le type de contenu qu'ils favorisent. La réforme et le protestantisme sont inconcevables sans l'invention de l'imprimerie qui mettait la Bible en langue vulgaire à la portée de toutes les consciences. Le socialisme, lui, est inconcevable sans l'invention du tract, de la plaquette. Eh bien, l'ère du numérique, avec les réseaux sociaux, favorise, on le sait, la polarisation des opinions, la violence des propos, l'extrémisme sous toutes ses formes. Dans l'économie du clic selon laquelle fonctionnent les réseaux sociaux, c'est l'attention et non pas l'information qui est devenue la source de valeur, la source de profit. Ce que vendent Facebook, Twitter ou YouTube, c'est le temps qu'on passe dessus. Et ce que nos clics révèlent de nos goûts, de nos idées, de notre profil de consommateur, car cela permettra aux publicitaires, à l'affût, de mieux cibler leurs annonces nous concernant. Or, le scandale, ce qui provoque l'indignation ou la colère, est la meilleure façon de retenir l'attention. Une étude menée en Allemagne au début de cette année a démontré que les recherches sur le thème « manifestation » dirigeaient systématiquement l'internaute vers les contenus les plus extrémistes, simplement parce que ce sont ceux qui ont le plus de chances de déclencher les fameux clics qui font vivre les réseaux sociaux. Alors le problème, écrit Joseph Nye, l'un des plus importants théoriciens des relations internationales qui a servi sous Bill Clinton et qui est aujourd'hui professeur, le problème c'est que des acteurs étatiques ou non étatiques ont compris depuis longtemps comment ce système pouvait être utilisé pour déstabiliser les démocraties. Les Américains savent à présent que les élections américaines de 2016 ont été préparées longtemps à l'avance par le Kremlin, qui avait chargé l'Internet Research Agency de Saint-Pétersbourg de créer des douzaines de faux médias sociaux américains. Parfois, ils favorisaient un candidat, devinez lequel, Donald Trump, mais d'autres fois, écrivait Nye, ils étaient juste conçus pour donner une impression de chaos et dégoûter les gens de la démocratie, les inciter à ne pas participer à des élections présentées comme des mascarades. Les puissances non démocratiques ont intérêt à présenter les élections libres dans les pays qui ont la chance de pouvoir choisir eux-mêmes leurs représentants comme truqués, comme inutiles. La violence, elle, peut se donner libre cours sur les réseaux sociaux, on s'y habitue. Ce à quoi il ne faut pas s'habituer, c'est à ce que la violence virtuelle devienne une violence réelle, que les appels à l'émeute débouchent sur un bain de sang, parce qu'alors la démocratie ferait le jeu de ses ennemis. Tant de puissances aimeraient voir l'Europe à feu et à sang.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert qui est déjà avec nous en studio. Rendez-vous après le week-end, cher Brice, rendez-vous lundi.